Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Jérôme Pinault. Ça va Jérôme?
Ça va très bien.
Comment ouais. t'as dit?
Jérôme Pinault.
J'adore.
J'ai envie d'être speaker, un jour comme ça. Il a gagné speaker. En 2007, 2008, 2009, 2010.
Raphaël Nadal.
J'adorerais faire ça. Mais bon, je vais rester aux commandes des grandes gueules du sport. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ouais, c'est déjà pas mal.
Très bien, c'est très bien déjà.
Ouais, c'est magnifique ce que tu proposes.
En merci.
J'ai envie de rester, moi.
Non, peut-être qu'on se fera une équipe avec ces gens-là. Hein. Fred Weiss est là, Pascal Duprat, Simon Dutin. Vous pouvez écouter les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu des messages récemment qui me disaient tiens, je suis en train de courir ce matin, je vais écouter la première heure, notamment sur l'Olympique de Marseille. Bah oui, il faut l'écouter la première heure sur l'Olympique de Marseille, puisqu'on a eu notamment des auditeurs. Et un débat assez important autour de la situation actuelle de l'OM. Est-ce qu'ils vont droit à la catastrophe? Sur le buzzer, dans un instant, on va parler du cyclisme, puisqu'on va suivre aujourd'hui l'Amstel Gold Race avec Maria Azé qui est sur place aux Pays-Bas. C'est une course d'un jour, vous le savez, avec les monts néerlandais. Pogacar n'est pas là, mais il y a Remco, Evenepoel et des Français. Mais est-ce qu'une course sans Pogacar vous intéresse? Voilà, ça va être intéressant de voir ce que vous pensez. On attend surtout votre témoignage au 32-16. Aujourd'hui, participez au jeu du sport avec vos GG en fin d'émission. Mission, remporter votre séjour d'une semaine à Lagrange Vacances pour 4 personnes. Vous pouvez prendre le large en France et programmer votre séjour quand vous voulez sur un an pour remporter vos futures vacances. Lagrange Vacances, envoyez sport au 732-16, sport au 732-16. Mais tout de suite, les amis, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG, ce qui nous a marqué cette semaine, c'est qu'il n'y a pas de secret. En fait, ce sont les grands collectifs quand même qui vont souvent faire la différence dans le sport. Regardez la Ligue des Champions. Le Real Madrid l'a appris à ses dépens. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas forcément la plus grande équipe dans la définition que l'on a du collectif. On est d'accord, les gars ?
On est d'accord.
Ok, très bien. Mais regardez un petit peu le pédigré des quatre équipes en demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG de Luis Enrique. C'est une équipe, on est d'accord ?
Ah oui.
Un collectif ?
Oui.
Le Bayern de Vincent Kompany. Vous êtes d'accord?
C'est une équipe.
C'est une équipe. L'Atlético de Diego Simeone. Vous êtes tous d'accord?
Là, pour le coup, c'est le stéréotype de l'équipe.
Et Arsenal de Mikel Arteta qu'il a construit année après année pour essayer d'arriver à quelque chose de cohérent. Allez, c'est peut-être, si tu veux, le moins important.
Le point commun des trois premières, c'est le coach et pourquoi les garçons se mobilisent.
Exactement.
Autour de leur coach. C'est peut-être un peu moins vrai avec Arsenal.
Ouais, mais je précise, c'est important que Simon est fan de Tottenham. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. En fait, comment on construit, on arrive à construire finalement ce qui est le plus important. Une équipe, un collectif. Comment est-ce qu'on y arrive? Pascal, évidemment, tu as été aux commandes de plusieurs équipes. Si tu donnais une conférence, là, tiens, tu viens à Sciences Po devant un amphithéâtre, Monsieur Duprat.
Alors, fais gaffe, on a pas le niveau sur
comment on fait et comment vous avez fait. Non mais voilà, comme toi, à partir de cette expérience, qu'est-ce que tu peux en dire de ça?
Bah, humblement, se dire que quand on raisonne en équipe, il ne faut pas raisonner, ne penser que s'il s'agit de l'équipe, du coach, du staff, c'est un club. En fait, l'équipe. Et si par déclinaison, depuis le sommet de la pyramide jusqu'en bas, tout le monde parle le même langage, tout le monde est sur les mêmes positions, alors vous pouvez être certain, c'est le meilleur moyen en tout cas, pour qu'ensuite, sur le terrain, eh bien, on voit que l'équipe évolue. Je prends l'exemple du PSG, tu en parlais tout à l'heure. Le PSG, il y a quelques années, raisonnait star. Oui. Et n'a jamais gagné la Ligue des Champions malgré le nombre de stars qu'il y avait sur la pelouse. Quand il y avait les trois fantastiques, Neymar, Messi et Mbappé, ben, malheureusement en Ligue des Champions ça ne passait pas, parce que justement à l'intérieur de cette équipe, ben, il y avait des grades et puis il y avait comme des fonctions qui n'étaient pas requises pour tout le monde.
Mais donc, alors par exemple toi Pascal, quand tu étais à l'ETG par exemple, qui est l'équipe avec laquelle tu es allé en finale de Coupe de France, par exemple.
Bah, ça part de loin. C'est un club que nous avons construit avec quelques amis. Nous sommes partis d'un bas niveau et puis on a franchi des échelons, mais toujours avec la même philosophie, c'est-à-dire toujours que l'individu serve l'équipe, que l'individu serve le collectif. Mais ceci, c'était pas que sur le terrain, en dehors également.
Et comment le faire entendre aux joueurs ?
Donc on parlait tous à l'unisson. Ben aux joueurs, en fait, à partir du moment où tu leur donnes et tu leur dis quel est le projet du club, quel est son ADN, à partir du moment où tu dis que rien n'est plus fort que le collectif, bien tu tu les préviens. Et puis ensuite, faut les traiter tous de la même manière. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que le joueur qui joue peu, tu dois lui vouer de la considération autant que celui qui te marque tous les buts. Et ça, c'est tous les jours. C'est toutes les minutes. À chaque fois que tu lui serres la main, à chaque fois que tu lui regardes, à chaque fois que tu interviens auprès du groupe, tu te dois de souligner son implication, même s'il ne joue pas. Je me souviens à Toulouse, par exemple. À Toulouse, j'avais 36 joueurs à coacher, alors que l'équipe était dernière. À la fin de la saison, quand le club s'est maintenu, après ces 10 matchs fantastiques, il y avait 8 joueurs que j'avais jamais fait jouer. Et il y en a 5 qui sont venus dans mon bureau pour me dire merci, vous vous êtes super bien comporté avec nous, vous nous avez respecté. Mmh. Bon, ça c'est quand on te donne quand on te délivre ce message-là, c'est quand même un signe fort des joueurs que tu ne fais jamais jouer, qui te remercient quand même.
Et vous parce vous êtes maintenu,
tu as voué de la considération.
On s'est maintenu, bien entendu. On s'est maintenu parce que impossible.
Les valeurs du collectif, tout d'un coup, là, ont été magnifiées. En arrivant à Toulouse, il est un secret pour personne que certains joueurs, parmi les plus importants, zappaient certaines séances. Venaient pas aux séances vidéo, par exemple. Mmh. Donc personne ne leur disait rien. Moi, quand je les ai pris, je leur ai dit, voilà, c'est simple. Tout le monde est logé à la même enseigne. Mmh. Vous arrivez tous à l'heure, vous vous comportez tous dans ce cadre qui est très strict, mais suffisamment large pour votre expression individuelle. Vous comportez tous de la même manière. Mmh. Voilà. Et c'était mieux à partir du moment où ce collectif commence à prendre, parce que chacun le sert, en fait, chacun y amène quelque chose, alors là, tu obtiens des résultats à plus forte raison quand tu as des joueurs de talent.
Fred, la construction d'un collectif, là, tout ce qu'a dit Pascal, déjà, est-ce que tu retrouves ce que toi, ce qui t'a permis de fonctionner en équipe?
Pour moi, c'est déjà un architecte. C'est un architecte qui arrive et qui choisit les joueurs qui correspondent à son style de jeu, déjà. L'architecte, c'est évidemment l'entraîneur. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense que il faut effectivement considérer tout le monde, mais que chacun ait un rôle bien précis. Nous, on a des stars au basket et on a des role players, des joueurs de rôle qui, dans leur rôle, sont considéré, c'est-à-dire qu'en gros, un défenseur chez nous est considéré autant qu'un attaquant parce qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Mais évidemment, dans les moments chauds, on sait auquel on va donner la balle et etc. Mais moi, je crois qu'il y a aussi une dimension qu'on peut pas maîtriser, qu'on peut pas contrôler, parce que j'ai été dans des très bonnes équipes, très bien construites, qui n'ont pas fonctionné. Et parfois, il se passe un événement en dehors qui ressoude l'équipe et qui crée justement ce collectif. Moi, j'ai l'exemple de Limoges en 2000. En 2000, on a une équipe fantastique. On a dans l'équipe, il y a Yann Bonato et des Ricains super bons et des joueurs français.
On rappelle,
qui sont...
pour les plus jeunes, Limoges à l'époque, c'était la meilleure équipe d'Europe.
Ouais, hein. Et donc on est en 2000. On n'a pas gagné depuis des années, alors qu'on a quand même des budgets. On a quand même chaque fois de très bons joueurs. Et là, d'un seul coup, on nous explique que le club est sur le point de couler et qu'il faut se regrouper, trouver des solutions. Et en fait, ce phénomène a créé ce lien. C'est-à-dire que après chaque match, on allait tous manger ensemble, on discutait toujours ensemble, etc. Ça, tu peux pas le créer. C'est artificiellement, c'est quasiment impossible.
C'est-à-dire que l'épreuve, l'épreuve,
soit te soude, soit t'écarte. Et là, ça nous a soudés. En plus, on avait un coach qu'on détestait. D'une certaine manière, en fait, c'était quelqu'un qui aimait nous faire entraîner comme des fous. Donc forcément, on s'est tous ligués contre lui. Mais en fait c'est une sorte de
l'union contre le coach.
Mais en fait c'est une sorte,
en fait, vous jouez pour lui.
C'était un manager kamikaze. Ouais. C'est-à-dire que lui, il savait qu'il serait plus là la saison suivante. Il s'est dit, je vais leur faire endurer le pire possible. Et dans l'adversité, une nouvelle fois, ça nous a ressoudés. Donc,
qu'il n'y a pas une recette, en fait.
C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des circonstances. Mm. Mais par contre, ce que tu peux faire, effectivement, tu peux faire comme Pascal a expliqué. C'est-à-dire, être un bon manager. C'est-à-dire, bien gérer ton groupe, le maintenir sous tension. D'autant plus au basket où il y a quand même des changements autant qu'on veut. Donc, forcément, t'as besoin de tout le monde. Mm. Et t'as besoin aussi, surtout, de considérer tous les efforts qui sont faits, et pas seulement ceux qui marquent des points, pas seulement ceux qui prennent des rebonds, tout le monde dans son ensemble, dans les pierres qu'ils apportent à l'édifice.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, sur la construction d'une équipe, comment on construit un collectif, hein, c'est surtout ça en fait, c'est la dimension collective, comme arrive à le faire Luis Enrique actuellement depuis 2 ans. Jérôme Pinault, tu as été dans des équipes comme coureur, hein, je dis, tu t'as été chez Bouygues, t'as été chez Yam, et je pense surtout à l'équipe Quickstep, hein, qui est une des grosses équipes du plateau, notamment sur les classiques, équipe belge avec des stars. Dans le cyclisme, il y a cette dimension plus que dans d'autres sports, peut-être de sacrifice, de carrément courir pour l'autre, et peu importe ton résultat à toi personnellement. Comment on arrive à construire ça et le sacrifice pour l'autre en fait? Comment t'arrives à construire les Quickstep, on les a longtemps appelés le Wolf Pack, hein, c'est les espèces de meute de loups. Comment on arrive à construire ça en fait, cette façon de penser?
Mais je peux pas dire beaucoup mieux que ce que viennent de dire Pascal et Fred. Si ce n'est que faut s'aimer en fait, faut s'aimer les uns les autres. C'est peut-être un peu romantique ce que je dis, mais
je pense pas comme toi sur ça.
Moi, je n'aurais pas pu me sacrifier pour quelqu'un qui ne me considérait pas. C'est-à-dire que le mec peut m'insulter, le mec peut ne pas avoir les mêmes opinions que moi, ne pas aimer ma façon de faire, mais en tout cas me respecter. Quand je dis m'aimer, c'est m'aimer dans mon travail. Je prends l'exemple de Mark Cavendish, que vous connaissez tous. Ce groupe, cette équipe qui a été construite autour de lui, ce garçon-là était capable d'être reconnaissant et de considérer tout le monde, de l'équipier bas de gamme, comme je l'étais, qui roulait dans les premiers kilomètres, à celui qui allait le lancer dans le sprint, le dernier du lead-out. C'est un garçon qui arrivait à fédérer, qui créait cette espèce de symbiose-là dans le collectif, parce qu'il avait la connaissance parfaite de chacun de ses équipiers. Il savait vraiment qui on était, ce qu'on pouvait faire et ce qu'il pouvait attendre de nous.
Mais c'est quoi, il venait vous parler dans les chambres?
Bien sûr, dans le stage, ça commence en stage.
Il partageait les primes.
Il partageait les primes, tu recevais des cadeaux à la maison que tu n'avais rien demandé.
Ah ouais,
et il venait te voir le soir.
Cavendish.
J'ai eu des beaux bijoux, d'une belle montre, de l'hi-fi pour chez moi. Il était comme l'était Sylvain Chavanel, hein. Sylvain, ouais. Pareil, était quelqu'un qui était reconnaissant. Mais au-delà de ça, moi, j'avais pas besoin de cadeaux. Contre, le mec, je m'étais sacrifié, il fait le podium. Le soir, la première chose qu'il fait, après avoir été protocole, c'est de venir te serrer dans les bras et de fêter la victoire une deuxième fois et te dire merci. Ça suffit, en fait. Après, le reste, évidemment, je suis pas mécontent, mais et ça, il faisait à chaque fois. Mmh. Et en plus de cela, ce sont des garçons, et comme certains directeurs sportifs, qui prennent de soin de toi même en dehors. Parce que nous, la particularité, c'est qu'on vit pas ensemble. On va pas au centre d'entraînement tous les jours. On peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois sans se voir. Je sais que, je vous donne un exemple très, très, très simple. En 2012, 13, j'étais avec Marc sur le Giro, j'étais pas prévu sur le Tour. On fait un Giro exceptionnel, on gagne 6 étapes sur le Giro. 5 pour Marc et une pour Matteo Trentin. J'ai roulé tout le Giro. À partir de
pour
la
les Ligue, autres.
Pour lui.
Pour lui.
Dès les premiers kilomètres.
C'est fou ça.
On a même des étapes où, à la fin, lui pensait qu'il pouvait gagner, le directeur sportif était pas sûr. Il y avait un équipier qui avait été mal 2 jours avant dans la victoire de Marc, qui avait servi à rien. Pour lui, on y est retourné et on a regagné. On est retourné au charbon. Il y avait même deux grosses difficultés. On a gagné. Je dis ça pourquoi? Parce qu'après, entre le Giro où Marc est allé voir la direction, disant Jérôme va venir au Tour, parce que cette équipe-là, il est né quelque chose. Pendant un mois, il m'a cassé les bonbons pour savoir comment je m'entraînais.
Ah oui, mais c'est vrai, aussi, il était derrière toi.
Mais aussi appelé quasiment tous les jours. Un WhatsApp, un message, comment ça va? Tu te sens comment? T'as récupéré? Tu fais quoi? Et on a même fait un mini-stage entre nous, autour d'une course un peu qu'on ne connaît plus aujourd'hui, qui s'appelle le Ster Electro Tour, qui était aux Pays-Bas. Il a fait venir l'équipe. On a passé 2 jours à s'entraîner aux Pays-Bas, mais ce n'était pas le problème de l'entraînement. C'est pour être ensemble, pas perdre le fil.
Comme si c'était à Marbella, par exemple.
Mais alors, on n'est pas à Marbella, tu vois, on est allé à Rotterdam.
C'est toi qui as donné l'idée.
C'est intéressant. Ce que toi, tu dis, en gros, c'est que pour toi, en tout cas, dans ton expérience, c'est que dans la construction d'une équipe, il y a eu un leader qui fédérait de par son attitude, de par ses résultats aussi. Hein,
parce que tu gagnes pas. En vélo, l'entraîneur, en fait, en vélo, le directeur sportif, il n'est pas présent au quotidien. On change de directeur sportif.
C'est pas le manager, Patrick Lefebvre, qui te dit écoute, Jérôme, cette année, tu roules pour Marc, c'est comme ça.
Alors, évidemment, c'est lui qui le dit. Mais Marc, c'est entretenir ça. Je veux dire, je l'ai pas fait pour d'autres, ou moins, avec moins d'intensité, parce que c'était pas la même chose. Et pendant cette période-là, je pense que entre ce groupe-là, avec un leader qui gagnait tout, et la merveilleuse époque de la boulangère, où là, il y avait pas de tête d'affiche, et ça gagnait tous les week-ends parce qu'on était tous très copains. Et là, pour le coup, quand je parle de copains, c'est vraiment copains. c'est les deux plus belles périodes.
Entre quoi,
il y avait la fraternité entre
nous. Moi, j'ai pas ça, moi.
Alors, justement.
Mais c'est deux époques différentes et deux sentiments différents.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport sur la construction d'une équipe, d'un collectif. Le mot copain me paraît déterminant. Est-ce que, pour faire un grand collectif, il faut forcément des potes?
Pas du tout. Pas du tout. Non. Honnêtement, il faut un leader charismatique qui t'amène dans une direction et où tu sais où aller. Et il faut respecter tes coéquipiers. C'est-à-dire que le respect pour moi est capital. Oui, oui. Effectivement, savoir. Moi, j'ai un exemple très concret une nouvelle fois. J'ai fait les Jeux Olympiques avec avec deux joueurs que sont Antoine Rigaudeau, par exemple. Et Laurent Sierra. Donc deux énormes caractères de gros chieurs à l'époque.
Et Fred Weiss.
Non, moi j'étais, je venais d'arriver, j'avais 5 ans, j'étais le gamin un petit peu. Et franchement, je les aimais pas. Je les aimais pas du tout. Par contre, j'avais à 2000% confiance en leur capacité à nous amener loin et 2000% de confiance en leur capacité à très bien jouer au basket et à m'indiquer le bon chemin pour y aller. Mais j'ai pas besoin d'être copain avec eux.
Ils étaient en tout point respectables.
Et on les respectait.
Ils étaient tes amis, mais très respectés.
Exactement. C'est pour ça que j'avais dit, j'ai parlé de respect au départ, parce que le respect pour moi, c'est le plus important. D'ailleurs, on est devenus très potes depuis qu'on a arrêté, parce qu'on a plus envie de se taper. Juste pour terminer l'exemple, pour la préparation des Jeux Olympiques, on a failli se taper sur le terrain pendant qu'on jouait contre, contre l'Australie avec Laurent Sierra, quand même.
C'est vrai.
On s'est arrêté au milieu, il a mis le ballon sous le bras comme il le faire et moi j'étais à deux doigts de lui en mettre une pour vous dire à quel point l'ambiance n'était pas super copain et on fait une médaille d'argent quand même.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi j'ai vécu l'époque Cavendish, pas tous copains mais ça travaillait et ça s'entendait bien pour gagner, et j'ai vécu par contre des moments formidables avec l'équipe Brioche la Boulangère où là c'était que des copains.
Non, mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'obligation. Jérôme, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas d'obligation. C'est évidemment mieux quand c'est tes potes et que tu peux sortir, etc. C'est très sympa.
C'est pas une obligation. C'est le même sentiment parce que maintenant, ça fait 20 ans, presque 30. Tu me demandes la meilleure des périodes, c'est quand j'ai gagné avec mes potes.
Ouais, on parle de résultats. Oui, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, quand tu parles de résultats, il n'y a pas d'obligation à être pote. Mais effectivement, si tu me demandes quelle est ma meilleure période, c'est en 2000. Pour moi, c'était pas des coéquipiers, c'était des frères. Donc évidemment, c'est mieux.
Mais par contre, on peut dire qu'en règle générale, quand ça ne marche pas, c'est quand les joueurs ou le staff ou l'ensemble du club ne respectent pas des codes, ne sont pas alignés. Quand tu as, par exemple, quand tu perds un ballon au foot, il faut que tout le monde court pour les récupérer. Et quand tu t'aperçois sur le terrain que certains font pas les efforts, à partir de là, donc ça part en sucette. Ouais. Bon, on commence à montrer du doigt les garçons qui ne font pas les efforts, et après c'est ingérable. En fait, c'est la meilleure manière pour pas avoir de résultats quand il y a des dysfonctionnements à tous les étages d'un club.
Simon,
exemple OM.
La narration du sport, c'est ça qui est marrant dans ce thème, c'est que la grande narration du sport, elle retire les stars, elle retire les légendes du sport, et quand tu les stars et les légendes du sport, ils insistent toujours sur le rôle de l'équipe et ils t'expliquent que sans l'équipe, eux, ils pourraient pas surnager.
Sans Scottie Pippen, Jordan.
Justement, c'est marrant que tu parles de Michael Jordan. Je crois qu'il avait dit un truc du genre le talent te fait gagner des matchs, mais c'est l'équipe qui te fait gagner des titres. Et tu regardes que, en fait, les stars n'émergent que parce que t'as une équipe. Pep Guardiola, lorsqu'il commence sa mission au Barça, premier truc qu'il fait, il vide Ronaldinho et Deco du vestiaire, qui étaient des immenses joueurs. Il met Busquets et Iniesta, on dit mais qu'est-ce qu'il fait, il est fou. Et il te crée la plus belle équipe en termes de jeu et la plus grande star de l'histoire du foot avec un Lionel Messi qui émerge. Et si on veut faire court, en fait, si on veut résumer à quel point l'équipe qui est moins fléchie au niveau de la narration et du grand public est fondamentale, c'est le film Moneyball. Le stratège, tu sais, où Billy Beane, le manager de Oakland, une équipe de baseball, est incarné par Brad Pitt. Et en gros, ils n'ont pas les moyens de recruter des stars. Les quelques pseudo-stars qu'ils ont, ils les vident au profit de joueurs. Et c'est étudié par des statistiques qui sont un petit peu moyens partout, mais qui, connectés ensemble, le pensent-ils, peuvent gagner. Et ils font une série de victoires absolument ahurissantes. Et la stratégie de Moneyball, elle a été reprise par des clubs aux plus gros moyens. En fait, ce Billy Beane, les Boston Red Sox, qui gagnent plus depuis des décennies, lui font un pont d'or. Il choisit de ne pas y aller. Mais les Red Sox ont appliqué ces méthodes et ils ont gagné 4 ou 5 fois les World Series.
Mais de plus en plus en NBA, juste pour revenir un petit peu à la construction d'une équipe, de plus en plus en NBA, avant de drafter, avant de prendre des joueurs, il y a des entretiens avec les coachs pour savoir qui ils sont.
Et ça, c'est de plus en plus dans tous les sports.
Et je trouve que c'est extrêmement important parce que il faut connaître la personnalité aussi pour voir s'il cadre avec les objectifs du club.
Et juste un dernier mot pour avant de fermer la porte du vestiaire, puisque justement tu parlais de l'OM, Pascal, l'OM qui est parti en stage. Est-ce que en fait ça se provoque de devenir une équipe, c'est-à-dire de
ça se construit.
On va aller tous aller au restaurant ensemble, tous partir en stage à Marbella, c'est-à-dire est-ce que ça ce sont des artifices pour
ça,
vous
ça marche pas à tous les coups.
Ce sont des artifices est-ce que ça peut vraiment marcher
ça marche pas à tous les coups évidemment, mais par contre ça peut contribuer oui à la création d'une équipe,
si tu crées du lien, c'est que tu as un nouveau groupe en général, et les stages de prépa et d'avant-saison sont faits pour ça. Quand tu mets en place un stage pour créer du lien.
Mais tu sais, le fameux stage commando, on va passer une nuit ensemble dans la forêt.
Ça marche bien. En préparation, après arriver à un certain moment, si on prend l'exemple de l'OM, mais ça peut être l'exemple de beaucoup d'équipes aussi. Si tu pars en stage en juin avec ton équipe, ton 8 pour faire le tour, mais que les mecs, avant de ça, ils se connaissent pas, ils ont pas appris à courir ensemble et ils s'apprécient à peine, c'est trop tard. C'est trop tard.
On l'a fait à Malaga pour une fin de saison et on est allé dans un golf. On a foutu tellement le dawa que ça resserrait le groupe parce qu'on s'est fait virer de l'hôtel. Et c'était une vraie bonne ambiance.
L'équipe de basket
qui arrivait sur un green de golf avec les voiturettes.
Le mot de la fin, Pascal.
Par exemple, moi, à l'ETG, parce que, en fait, j'étais en position forte, on va dire. À l'ETG, chaque fois qu'on organisait un stage en début de saison, un stage de pré-saison, je disais aux joueurs, vous êtes 10 jours en stage, vous travaillez conséquemment 2 à 3 fois par jour, et le soir, il n'y a pas de couvre-feu. Vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous soyez le lendemain matin tous présents à l'entraînement et que surtout, j'ai pas de plainte à déplorer.
Ouais. Voilà. Et est-ce qu'ils étaient tous les matins à l'entraînement, alors?
Bah, tous les matins à l'entraînement, et puis ils allaient boire un coup, souvent c'est dans des endroits sympas, ils allaient boire un coup, et puis à 11h30, minuit, ils étaient tous rentrés.
Peu importe les endroits, parce que je vais te dire, moi, j'ai fait des stages organisés par les équipes précédentes, et même par la dernière que j'ai faite, dans un palace à Kstatt avec Yam, il n'y avait pas une ambiance. Le plus beau stage de prépa que j'ai fait, je pourrais pas raconter les détails, parce que c'était...
Mais on imagine,
couleur. C'était avec Marc Cavendish dans un camp militaire en Slovaquie.
Quoi?
Je veux dire, il y a plus sexy. Hein. Mais alors, on a des souvenirs, mon pauvre. Ah ouais, on peut pas tout raconter. Là, on a rigolé.
Dans un camp militaire, quoi? Vous êtes
exactement
dans
la boue et tout. On a fait un boot camp dans un camp militaire. Sauf que quand t'as envie de faire de créer du lien et de faire le con, tu trouves toujours. Et je peux te dire que avec des Stibars, des Tony Martin, des Marquettes, des gros caractères, on sait. On a un courir. À chaque fois qu'on se recroise, on dit tu te rappelles le stage en
Slovaquie. Bien sûr. Après, Marc Magnou nous a déjà dit que certains stages en altitude en équipe, par exemple, c'était pas toujours une bonne idée parce qu'effectivement, sortaient un peu plus qu'ils ne s'entraînaient.
Là, au TID, ils sont pas prêts de sortir. Hein, où ils vont
au volcan, effectivement, à Tenerife, il n'y a pas grand chose à faire autour. Alors, on ferme la porte du vestiaire. L'équipe des grandes gueules du sport, la construction d'une équipe à retrouver en podcast, évidemment, fascinant. Et c'est l'essence même du sport. C'est la clé pour que ça marche, le ciment. Et en vrai, ça marche aussi pour vous écouter dans la vie de l'entreprise, dans la vie de tous les jours quand on essaie d'avancer ensemble.
Il faudrait un repas des grandes gueules, Georges.
On n'avance jamais seul. Oui, mais on essaie, les gars, mais à chaque fois, les uns et les autres sont pas disponibles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je l'organise.
On est déjà une équipe qui marche plutôt
bien. Ouais, ça va quand même.
J'ai l'impression qu'on a fait quelques stages en aptitude aux deux Alpes. Ça n'était pas trop mal possible.
On est plus proche de faire une chorale des grandes gueules du sport.
Avec Pascal.
Ce matin.
Voilà, bah oui.
Allez, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, les jeux du sport. Quel GG connaît le mieux le sport? Ou en tout cas, c'est être la plus habile, la plus malicieuse dans les jeux dans un instant. Mais d'abord, donc, du cyclisme sur le buzzer des grandes gueules du sport. On est une semaine, après la grande émotion de Paris-Roubaix, la victoire de Wout Van Aert, c'est tout incroyable. Les coureurs ont laissé les pavés derrière eux pour les monts des Ardennes. C'est la classique des Pays-Bas. L'Amstel Gold Race à suivre aujourd'hui en direct sur RMC. Un petit détail, le cannibale Pogacar saute le repas cette fois-ci.
RMC, les GG sur le buzzer.
Tadej Pogacar qui s'envole dans cette dernière ascension du Vieux Coirmont. On s'y attendait. Attaque de Pogacar à l'instant. Tadej Pogacar qui franchit la ligne. Point vers le ciel, Tadej Pogacar. Et c'est parti pour Tadej Pogacar qui lance le sprint. Victoire de Tadej Pogacar. Victoire de Tadej Pogacar au sprint.
Incroyable
victoire exceptionnelle. exceptionnel de Tadej Pogacar. Victoire de Tadej Pogacar qui remporte son 9e monument et qui devient le premier cycliste de l'histoire à faire le triplé Tour des Flandres, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. C'est une légende, Tadej Pogacar.
Eh ben ça, c'était au Tour des Flandres. Mais si vous reprenez le
mot Tour des Flandres,
si vous reprenez le commentaire de Milan San Remo ou de Paris Roubaix, alors il a pas tout gagné, il a pas gagné Paris Roubaix, mais vous allez voir qu'à chaque fois, il est ultra protagoniste. Tadej Pogacar, et on en a largement parlé ici. Cette fois-ci, il a donc fait l'impasse. L'ogre Pogacar n'est pas au départ de l'Amstel Gold Race ce matin. Il y avait participé et terminé deuxième l'année dernière en étant le grand acteur de la journée, comme souvent. Cette fois-ci, il se repose avant de retrouver dans une semaine Liège-Bastogne-Liège et ses rivaux. C'est que ça, c'est Remco Evenepoel. Ce dernier est aujourd'hui le grand favori de l'épreuve. Les GG Amstel Gold Race à suivre aujourd'hui sur RMC. Sans Pogacar, est-ce qu'une course sans Poggi vous intéresse? Fred Weiss?
Pas du tout.
Simon Dutin?
Oui, beaucoup.
Pascal Duprat?
Absolument.
Jérôme Pinault?
Et oui.
Et on vous attend évidemment au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Notre voix du cyclisme sur RMC nous rejoint. Salut Maria Azé.
Salut Georges, salut tout le monde.
Salut Maria.
Salut Maria. Tu es aux Pays-Bas où tu vas nous faire suivre l'Amstel Gold Race toute la journée. Je rappelle que, attention, c'est à consommer avec modération, bien sûr. Dis-nous, pour les coureurs, c'est une course sans Pogacar. Est-ce que ça change tout?
Bah, ça va faire bizarre déjà de pas prononcer le nom de Tadej Pogacar pour nous cet après-midi. En tout cas, bah forcément, ça change la tactique de course puisque le peloton est habitué à se faire malmener par les coéquipiers de Pogacar qui imposent un rythme fou pour user un peu tout le monde quand le Slovène est là. Le directeur sportif de la Décathlon CMA-CGM, Julien Jurdi, se prépare à un autre style de course que ce qu'on a pu voir depuis le début de saison.
Peut-être un scénario un peu différent. Comme on le sait, il manque certains gros favoris, notamment Pogacar. Voilà, il y a un coureur qui sort du lot qui s'appelle Renko. Mais après, c'est clair qu'il y a pas mal d'outsiders. Donc, on peut peut-être avoir une course un peu débridée dans l'anticipation. On peut avoir un scénario un peu différent que le rouleau compresseur qu'on avait l'habitude de voir avec UAE ces dernières années.
En sachant que l'Amstel Gold Race, c'est une course qui peut sourire aux outsiders. On l'a vu l'année dernière avec la victoire de Mathias Kielmose devant Tadej Pogacar qui était là et Remco Evenepoel. Alors même s'il n'y a pas Pogacar ou Paul Sexas, il y a quand même un beau plateau sur cette course. D'abord avec Remco Evenepoel, donc on le disait, mais aussi avec des Français qui marchent assez bien depuis le début de saison. Un Romain Grégoire, Kevin Vauclin qui aura un gros collectif, Christophe Laporte, voire même Julien Alaphilippe en grande forme. Ils pourraient avoir un petit peu tous leur carte à jouer aujourd'hui sur cette Amstel Gold Race.
Merci Maria, on va suivre cette course évidemment tout au long de la journée avec toi. Arrivé aux alentours de 16h50 aujourd'hui pour cette première classique ardennaise. Je rappelle évidemment, puisqu'on a parlé de l'équipe Décathlon CMA-CGM, que CMA-CGM est le propriétaire du groupe média RMC BFM. Les amis, une course en Pogacar vous intéresse-t-elle? Fred, tu as dit non.
Non, non, parce que je suis sincère. Ce que je veux dire, c'est que vous savez,
il a des faux culs.
J'osais pas le dire. mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai découvert vraiment le cyclisme grâce à Pogacar.
C'était grâce à moi.
Oui, mais grâce à toi, qui commentait Pogacar.
Donc, c'était pas avant.
Non, avant. J'aimais ton style, alors. D'ailleurs, vous êtes qui? donc, tout ça pour dire que j'aime son style, j'aime le fait qu'il soit protagoniste, j'aime le fait qu'il ultra domine. Et en fait, je l'aime même quand il perd, en fait. Donc, en fait, j'aime quand il est présent, j'aime qu'on prononce son nom.
Il est central pour toi dans l'intérêt du cyclisme. Dans mon intérêt.
En fait, je parle des spécialistes du cyclisme. Alors, évidemment, eux, ils aiment le cyclisme, quoi qu'il arrive. Je suis quelqu'un qui est rentré. Dans ça, grâce à Pogacar, et je pense que Paul Sexas va faire partie de ceux qui vont m'aider aussi à aider le cyclisme, mais il sera pas là lui non plus. Donc mercredi. Réellement, j'ai besoin d'une superstar, j'ai besoin de Pogacar, j'ai besoin du deuxième meilleur sportif slovène de l'histoire. Parce que pour moi, c'est important d'avoir des superstars, d'avoir quelqu'un qui dirige la course, quelqu'un qui est protagoniste, quelqu'un qui va partir, on ne sait pas quand, on ne sait pas ce qu'il va faire, et j'aime cette attitude.
Juste, je précise, pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas compris, seraient un peu choqués d'avoir entendu le deuxième meilleur slovène de l'histoire, parce que pour toi, évidemment, c'est Luka Doncic, le premier joueur de Lakers.
Il n'y avait pas de débat, là.
Pogacar. Sans Pogacar, la course a un intérêt quand même, Jérôme Pinault?
Alors moi, je trouve que oui, justement, parce que l'an dernier, rappelez-vous, Tadej Pogacar s'est cassé les dents sur cette course et cette année il n'y va pas. L'année dernière il a voulu faire comme d'habitude, c'est-à-dire prendre son envol, écraser la course à 60 bornes de l'arrivée et il s'est fait rattraper. C'est l'une des fois où il nous a montré quelques faiblesses. Et cette année, il n'y est pas. Alors, il fait l'impasse, non pas parce qu'il a plus couru que les autres années, parce qu'il a moins couru que les autres années, mais peut-être parce que cette course, peut-être, finalement, l'empêcherait de viser une grande domination sur les deux qui arrivent, et notamment sur Liège-Bastogne. Il ne sera pas non plus sur la Flèche Wallonne, ce qui est quand même une indication. Et cette course-là, elle doit sourire, logiquement, à Remco Evenepoel, qui est l'ultra favori de cette course. Et c'est peut-être mettre un peu de pression sur les épaules de Remco Evenepoel, rien qu'en étant absent au départ de cette étape, de cette
classique. Ah, mais il faut assurer, en fait. Il faut assurer son risque de déclasser.
Exactement.
Tu es en train de m'expliquer qu'il est pas là, mais qu'il est là quand même.
Exactement. L'ombre de Pogacar est au départ de cette Amstel Gold Race, parce que c'est la course où il s'est loupé l'an dernier, et il laisse complètement la place à celui qui, derrière Vingegaard, qui se dit être quasiment dans sa galaxie, à savoir Remco Evenepoel.
Oh là là. Ben, en effet, ça crée un effet de loupe sur les coureurs qu'il y a. Et moi,
montrez-nous.
Tout fan de Pogacar que je suis, c'est l'occasion de se rendre compte que même s'il est ultra dominant, des grands coureurs, il y en a d'autres, que des belles courses sans Pogacar, ça existe, qu'il y en avait avant lui, il y en aura après lui. Jérôme a raison de rappeler que l'an dernier, 50 km de l'arrivée, on était persuadé que
il allait fini.
Mais c'est ce que j'ai dit aussi. Hein. J'ai dit qu'il est intéressant même quand il perd.
Mécaniquement, ça augmente l'incertitude. T'as pas un ultra favori, t'as 5-6 mecs. Maria l'a rappelé, qui peuvent se disputer
des Français,
la victoire.
Mais en fait, c'est le même sujet sur le tennis, par exemple. C'est quand Sinner et Alcaraz sont pas là.
Oui,
est-ce que ils ont tellement cannibalisé l'attention est-ce que ça reste intéressant?
Regarde en Ligue 1. Je pense que c'est moins intéressant quand il y a pas Sinner.
Regarde en Ligue 1, parfois on se passionne plus pour la course à la deuxième place entre des équipes qui sont formatées de façon assez comparable, là où le PSG certaines saisons a un matelas d'avance en Coupe d'Europe. Parfois, quand t'aimes vraiment le ballon, tu te régales devant des soirées de Ligue Europa, parce que tu découvres des joueurs qui vont aller plus haut un jour, des joueurs qui sont en fin de carrière et qui sont des magnifiques joueurs. Et pour revenir au cyclisme, alors là je vais parler sous le contrôle de Jérôme, c'est que parfois t'as quand même l'impression que ça court contre Pogacar et que ça court pour ne pas perdre face à Pogacar. Quand il est pas là, tu peux t'attendre à des stratégies plus positives. Je veux dire,
mais c'est le message.
On s'organise pour gagner, Pascal. et plutôt que pour éviter de perdre,
Pascal.
En fait, pour moi, tout simplement, il y a une telle densité de coureurs aujourd'hui, de qualité, que le fait que Pogacar soit pas là, ça ne nuit pas, en fait. La course sera de qualité.
T'as raison.
Elle sera certainement plus disputée que quand il y a Pogacar. Je pense que aujourd'hui, par exemple, je vais laisser ma télé allumée jusqu'au bout. Je vais pas m'arrêter une heure avant quand Pogacar est parti et qu'il commence à filer 30 secondes toutes les 10 bornes.
C'est pas l'inverse. Donc, moi, je regarde un peu plus tôt, justement, parce qu'il y a Pogacar.
L'hégémonie de Pogacar, si t'aimes mieux. Je suis vraiment désolé de le dire, mais j'ai peut-être complètement tort. Et il est tellement, il vampirise tellement le peloton que je me dis, il y a comme un défaut.
Tu n'aimes pas l'histoire, Pascal, c'est ça ton problème. Tu ne respectes pas l'histoire qui est en train de s'écrire avec Pogacar.
Fred, s'il te plaît, regarde par exemple le dernier Paris-Roubaix, il est somptueux. Pourquoi? Parce que Pogacar est contrarié, parce qu'il est tombé sur un os, et parce qu'il a été battu, ce qui le rend humain. Moi, plus souvent il est battu, plus ça le rend humain pour moi. Et ses courses, donc, quand il n'est pas là, je rejoins ce que vient de dire Simon, je pense que ça décomplexe aussi beaucoup de monde. Certains ont envie de prendre le leadership temporaire sur le coup, et ça va donner une course hyper ouverte où on n'est pas c'est pas couru d'avance.
Attention, Pascal, tu peux aussi assister à un solo de 60 bornes de Remco Evenepoel aujourd'hui.
Je dis pas le contraire, mais au moins ça sera pas un solo du sempiternel slovène Pogacar.
Mais c'est comme ça que se gagnent les courses, mon Pascal, et je suis sûr que tu vas vite te rabibocher avec le cyclisme et les solos.
Non, mais j'adore.
Je pense que le prochain qui fera des solos,
c'est celui qui fait la victoire de Wout van Aert, Pascal.
Van Aert, tu peux pas savoir, je pleurais devant la télé.
Ah mais Van Aert, en plus, ça a fait plaisir.
Moi aussi, je pleurais parce que c'était pas Pogacar.
Je pleurais tellement, ce mec, il incarne le vélo, la souffrance et la pas de chance. Il toujours par terre, des gamelles en veux-tu en voilà, alors que c'est un talent incroyable, qu'il ait battu Pogacar au sprint. Ça m'a procuré de l'émotion.
Ton témoignage est magnifique, parce que on sait aussi qu'on est tous amoureux du sport et on se dit qu'on aime bien quand même que c'est toujours le plus fort qui gagne. Mais dimanche dernier, c'est absolument pas le plus fort qui a gagné. Le plus fort, c'est Mathieu Van Der Poel. Il a pas gagné puisqu'il est même pas sur le podium. Mais ce qui donne de l'attrait à cette course-là qui vient, c'est que, a priori, ça va être l'une des dernières grandes compétitions à suivre jusqu'au tour. Sans Pogacar, il va y avoir la Flèche Wallonne où on attend Paul Sexas, et après il y aura Liège et il y aura Paul Sexas et il y aura Remco. Donc là, on rentre parce que ce qu'on a aimé à Roubaix, c'est qu'ils étaient tous là et ils se sont.
Mais oui, mais justement, mais je suis d'accord avec vous. On a aimé parce que tout le monde était là et surtout parce qu'il y avait Pogacar et parce qu'il a été battu. Et donc encore une fois, une course sans Pogacar, tu ne peux pas combattre contre lui.
C'est pas pareil. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ça permet, en l'absence de Pogacar, peut-être de voir émerger d'autres personnages qui vont prendre plus d'épaisseur pour affronter ensuite Pogacar. Si Remco Evenepoel gagne aujourd'hui, on dira ah mais c'est Evenepoel qui a gagné l'Amstel Gold Race pour aller disputer Liège-Bastogne-Liège face à Pogacar. Dimanche, donc ça crée un narratif.
On dira, il va prendre une rousse de la même manière contre Pogacar.
Ouais, ça nous permettra de faire une super émission. Allez les amis, les grandes gueules du sport. Donc l'Amstel Gold Race à suivre aujourd'hui. Hein. RMC, c'est la radio du vélo. Hein. On suit toutes les grandes courses, évidemment avec Maria Azé aux commentaires, avec Jérôme Coppel aussi qui sera là cet après-midi pour vous faire vivre la classique néerlandaise dans les monts, dans les bergs. Elle est pas mal. Moi, j'aime bien cette course à Valkenburg là-haut.
Une de mes classiques préférées.
C'est très beau. Des routes très sinueuses, c'est compliqué. Hein.
Quand tu vas en reco, faire l'Amstel en reco, tu te perds. Tu passes 10 fois au même endroit, un coup dans un sens, un coup dans un autre. Ça ressemble un peu au Tour des Flandres sans les pavés.
Et c'est caisse à bière à l'arrivée pour construire la tribune. Là, il y a une tribune qui est faite en caisse à bière. Voilà. À consommer avec modération.
Évidemment.
Évidemment, vous le savez. Allez, les amis. Et d'ailleurs, du coup, je vais dire Heineken et 1664. Puisqu'on a pas.
C'est le nom de la course.
C'est le nom de la course, mais bon. Allez, les amis, on revient dans un instant pour les jeux du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. Tiens, sur WhatsApp, j'ai un message au 06 12 424 425 de Xavier qui nous dit j'ai battu mon record sur 10 km une nouvelle fois avec les grandes gueules du sport dans les oreilles. Merci les gars, un canet qui n'a pas oublié Pascal à Malherbe. Si est-il. Ben voilà. Et ouais, non, mais il est marquant Pascal. Hein.
Les canets.
Partout où il passe, il reste.
Ouais, hein. On se souvient de moi. Ouais.
Exactement. On va voir si on va se souvenir de toi à l'issue de ces jeux du sport. C'est parti.
Bah, j'arrête pas de gagner.
RMC, les jeux du sport.
Ah ouais? T'arrêtes pas de gagner? On va vérifier quand même.
Demande,
bah, je vais demander. C'est du 2 contre 2, je rappelle, vous défendez un auditeur. Répartition des équipes. Simon Dutin avec Jérôme Pinault et Fred Weiss avec Pascal Duprat. On rappelle qu'on attend toujours la confrontation entre les deux dans une cage pour du MMA. Hein.
Voilà. C'est la première fois que je suis avec Fred.
Ouais. Oui, bah, bon courage. D'accord.
Non, on a perdu avec Simon la semaine passée face au très grand, au goutte de ce jeu, Julien Benneteau.
J'ai joué avec lui hier, il était absolument
Hier, il a pris sa baguette.
J'étais avec Julien.
J'étais à faire autre chose, mais la semaine dernière,
c'est très bon. Mais c'est bien, ça l'a rendu humain. C'est un peu comme quand Pogacar perd un pari au bout.
C'est ça.
On accueille les. Je vous rappelle que vous pouvez activer la question impossible. 3 points si vous réussissez. 1 point si jamais c'est raté, activable par un seul joueur. On accueille Aymeric et Thomas. Salut, messieurs.
Salut.
Bonjour.
Salut, Aymeric. Salut, Aymeric, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe. Dutin Pinault ou Duprat Weiss?
Allez Pinault.
Allez Pinault. Allez Pinault.
Allez Pinault.
Allez Pinault. Et donc Thomas avec l'équipe Duprat Weiss. On est fatigué, je crois, après 3 heures d'émission. Allez les amis, c'est parti. Je rappelle qu'il y a un séjour d'une semaine à Lagrange Vacances pour 4 personnes à remporter, à faire gagner pour vos amis auditeurs. Question à une seule réponse. Les amis, on a beaucoup parlé d'Arthur Fils, mais quel autre Français a remporté un tournoi de tennis ce samedi?
Kwame.
Moïse Kwame. Moïse Kwame. Point pour l'équipe Dutin Pinault. Question à plusieurs réponses.
Oh là, oh là, oh là.
Question à plusieurs réponses. Quel événement se déroule actuellement au Mans ce week-end?
Le Bol d'Or. Non, le. Comment le.
Les 24 heures du Mans Moto.
Les 24 heures du Mans Moto, oui. Jérôme Pinault.
Allez, tu sais pourquoi je te dis ça?
Bah vas-y.
Non. Parce que j'ai croisé énormément de motos sur la route aujourd'hui. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose.
Et donc t'as regardé, mais il y a quoi? Les 24 heures du Mans Moto. Et tu savais pas que ça allait te donner un point pour les jeux.
Bah ça voilà, bosse, ça sert. Ça bosse.
Question auditeur, c'est pour vous, Aymeric et Thomas. Vous donnez votre réponse. Allez, et ensuite votre prénom, comme ça je peux identifier qui a donné la réponse. C'est OK pour vous?
Oui.
Allez les gars, très simple. Face à qui joue Lyon en Ligue 1 ce soir?
C'est Emric.
Ouais, l'équipe du Braveys, là, vous allez vous réveiller. 3-0 pour l'instant. Question à une seule réponse, les GG. Je rappelle, la question impossible est active.
Question impossible.
J'en étais sûr. En fait, c'est un enfant. Tu sais que tu peux avoir joué. Jouer.
Mais on est à zéro, donc on peut pas être à moins 1.
Mais si, tu peux être à moins 1.
Ah non, on fait pas les moins.
Bah, allez, ça va ou quoi?
Non.
Ce sera moins 1.
Ce sera moins 1, bien sûr.
Ouais. Question basket impossible, Fred Base. Karim Abdul-Jabbar est le recordman de titres MVP sur la saison régulière en NBA. Combien de titres MVP a-t-il remporté?
6.
Vous n'avez pas déjà posé cette question?
Je ne sais pas du tout, mais 6.
Bravo Fred.
C'est une bonne réponse.
Bravo Fred, c'était sûr. Bravo Fred. C'était excellent.
Non, je comprends pas, vraiment. C'était nombre de matchs joués.
Ah oui, c'est vrai.
Donc là, bravo. Il y a 3-3.
3-3, félicitations. Voilà.
3, allez. C'est 3 points.
Eh c'est oui,
points.
C'est tout pour ce qui nous activé.
Bravo Fred.
Question à une seule réponse. Bravo Fred. Qui a dit la phrase que je vais vous citer tout de suite? À 18 km/h, je peux tenir longtemps en te parlant.
Gressier.
Ah oui, bien joué Fred.
C'est Jérôme.
Il a dit à 3-20.
Superbe.
C'est du footing.
À 18 km/h, je peux tenir longtemps en te parlant, en chantant, en étant au téléphone.
Je peux pas atteindre 3-20.
Non, mais la preuve qu'il peut le faire, d'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast qu'il a enregistré en courant le début du marathon de Paris sur RMC Running, sur la chaîne. Abonnez-vous, évidemment, tous les fans de Running. Évidemment.
Il a des tests VMA, ce garçon a un cœur venu de nulle part.
Arrête de gagner du temps. Il y a encore une maison. Question à une seule réponse, les GG. Qui est leader de Ligue 2?
3.
Combien?
Solide, mon Jérôme.
3. Ça fait 5-3
devant Saint-Etienne et Le Mans.
Les nouvelles de Pascal Duprat. Question.
Non, mais bon, il y a un décalage.
Question auditeur.
La question m'arrive après.
C'est pour vous, Emric et Thomas. Quelle judokate française était en lice pour gagner un 6e titre européen aujourd'hui, mais a été éliminée ce matin? Non, pas du tout. Tu pensais avec Benyounou, je pense, mais c'était Roman Dico qui a été battu malheureusement ce matin. On retrouvera d'ailleurs Morgan Murray tout au long de la journée pour les championnats d'Europe de Tbilissi. Baf, un petit teasing. Allez, ça fait toujours 5-3 pour l'équipe du Timpino. Question élimination pour 2 points, les gars. Question élimination pour 2 points. Vous répondez à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé.
Ouh là là.
Arthur Fils est donc en finale à Barcelone. Donnez-moi tous les tennismans français qui se sont qualifiés en quart de finale d'un grand chelem. Homme. On commence par Fred Weiss.
Mon fils.
Gaël, mon fils. C'est bon. Simon Dutin.
Tsonga.
Tu veux le Fritz Tsonga, c'est bon. Pascal Duprat. On cherche les Français.
Mais on peut aller loin.
Bah, tu fais ce que tu veux, ouais.
Il y a un quart de Noah.
Yannick Noah, c'est bon. C'est loin, ça. Jérôme Pinault.
Ouais. Bon, Guy Forget.
Guy Forget, c'est bon. Fred, on cherche les Français qualifiés en quart de finale de Grand Chelem en tennis dans leur carrière.
Clément.
Arnaud Clément. C'est bon.
J'ai eu un coup de pression, là.
Simon.
Henri Lecomte.
Henri Lecomte,
c'est
bon.
Mon prochain.
Ouais, putain, moi aussi.
Pascal.
Pioline.
Cédric Pioline.
Allez,
c'est bon.
Dis-moi oui.
C'est bon.
Oui.
Jérôme. On cherche les Français en quart de finale de Grand Chelem.
Quart de finale?
Ouais, en tableau masculin.
Allez, t'es mort.
Non, j'en ai 3. Allez, Arnaud Butch.
Arnaud Butch ne s'est pas qualifié en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
Purée de patate.
Thierry Champion,
bien sûr. Ça, c'est un nom de champion. Attention les textos qui arrivent pour donner des réponses. Simon Dutin.
Grosjean.
Sébastien Grosjean, c'est bon. Pascal Duprat.
Comment il s'appelle, lui, là, qui renvoyait tout?
5, 4, 3, 2, 1, 0. Gasquet. Oh là 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 là. Fred. 5.
Arthur Fils.
Et non, Arthur Fils. Simon Dutin.
SQD.
Nicolas Escudé, attention. Pascal, j'entends les textos qui arrivent derrière, j'espère que tu ne ressens pas les réponses.
Non, je ne regarde pas mon téléphone, non, je ne triche pas, je voulais les enfants, je ne triche pas.
Allez, okay. Les qualifiés, Français en quart de finale de Grand Chelem.
C'est à moi?
Ouais, 5.
Comment il s'appelait le Niçois?
3. 2.
Il l'a déjà dit, Simon. Ah merde.
0. Eh ben, c'était Gilles Simon, justement, tu ne l'as pas dit.
Ah bah, je l'ai dit. Si,
bah, non, mais alors, t'as dit
mais
Simon.
Mais il dit Simon, il dit Simon.
Non, non, non. Eh ben, je dis Simon. Ah non. Remettez la barre, s'il vous plaît. J'ai besoin de dire Simon.
Maxime
le dit. Niçois, j'ai dit. Le Niçois, Simon, j'ai dit.
Bon, allez, je valide.
Merci.
Simon.
100 euros.
100 euros, c'est bon. Pascal.
Allez.
5. 4. 3. 2.
Je sais plus, moi.
Terminé. Comment? Victoire de l'équipe du Tain Pinot. Et vous n'avez pas cité
Paul-Henri
Julien Beneteau qui était allé en quart de finale d'un grand chelem.
Parce qu'on n'y croyait pas.
Est-ce que Paul-Henri Mathieu a fait ça?
Hein?
C'était mon prochain.
Paul-Henri Mathieu? Non, il n'y était pas. Il y avait Lucas Pouille, Jérémy Chardy, Christophe Roger Vasselin, Georges Goven, Patrick Poisy. Il y avait beaucoup de monde.
Mais
allez, bravo Émeric. Bravo Émeric.
On aurait pu aller jusqu'au mousquetaire.
Ouais.
Bah, oui, on aurait pu dire Borota, je sais pas comment là.
Bravo Eric, Émeric, tu remportes les vacances, le séjour avec la Grange Vacances. Bravo à toi et les grandes gueules du sport, je vous remercie. Bravo Simon.
Merci Georges.
Back to back. Hein.
Ouais, le back to back.
Les deux jeux.
Après la Manita à Bennett hier.
Merci Fred. Bonne nuit. Avant San Antonio Spurs, Blazers à 3h du mat. Merci Jérôme Pinot.
Merci à toi.
Et on se retrouve.
Et allez, Nantes. Très vite. Je file à la Beaujoire. On va tenter de se sauver.
Les gars, si jamais Nantes gagne, peut-être qu'il y aurait un effet Pinot. Voilà. Allez, les amis, on revient dans un instant. Salut. Pascal Duprat reste avec moi. Les paris, ça arrive.